Vous qui êtes venus ce matin dans ce temple pour ce temps de culte, quel que soit votre chemin de vie, votre chemin de foi, vous êtes bienvenus. Vous qui êtes au loin mais présents par le moyen des réseaux sociaux, vous êtes bienvenus. Vous qui êtes venus pour ce culte particulier qui fait place à l'engagement et aux bénévoles de la CIMADE, vous êtes aussi les bienvenus. Depuis 1939, la CIMADE, comité intermouvement auprès des évacués, créé sous l'impulsion de mouvements de jeunesse protestants, défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, et ce, quelle que soit leur origine, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Et elle les défend par une solidarité active et un engagement de témoignage, d'information et de sensibilisation. Alors, pour vous accueillir tous, voici les mots du pasteur Wagner qui a édifié ce temple et cette paroisse. Entre ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille, militante et blessée, mais invincible. Tu seras l'hôte de Dieu et ton âme sera chez elle. Oui, à vous tous, la grâce et la paix sont données avec la confiance, avec le courage de la part de Dieu, source de vie et d'amour qui coule en chacun de nous. Je vous invite à prier. Éternel Dieu, nous voici pour ce temps de culte, pour nous disposer et nous déposer dans ta parole, dans ta lumière, dans ta grâce. Là, nous recevons ce dont nous avons besoin. Là, nous sommes reliés les uns aux autres. Là, ton souffle de vie nous recueille, nous anime, nous réconforte. Éternel notre Dieu, nous voici. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier des spontanés de ce temps de culte sur la feuille des cantiques. Restons debout pour le temps de la louange dans laquelle Micheline va nous conduire.
Pour ceux qui te donnent un visage en répandant ton amour dans le monde, Éternel, nous te louons. Pour ceux qui te donnent des mains en luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l'isolement, Éternel, nous te rendons grâce. Pour tous ceux qui te donnent une bouche en dénonçant la guerre et toutes les violences faites aux hommes, Éternel, nous te bénissons. Pour tous ceux qui te donnent des yeux en admirant chaque preuve d'amour dans le cœur de l'homme, Éternel, nous te louons. Et pour tous ceux qui te donnent un cœur en accueillant les pauvres, les faibles, les exclus et les opprimés, Éternel, nous te louons.
Et nous chanterons au psaume 98, les strophes 1, 2 et 3 du psaume 98, entonnons d'un nouveau cantique. Prenez place. Nous écouterons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ces quelques versets du livre du Lévitique au chapitre 19. Si un immigré vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme l'un d'entre vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigré en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas d'injustice, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les capacités. Vous aurez des balances justes et des poids justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Amen. Et nous écouterons maintenant un témoignage d'un bénévole de la CIMADE, c'est Julien, qui a bien voulu venir partager avec nous pendant ce culte, ainsi que deux autres bénévoles, Micheline et Micheline, voilà, partager un peu de leur expérience et des rencontres qu'ils ont faites au cours de leur engagement bénévole. Et donc à vous, Julien, de nous dire ce texte que vous avez préparé.
Je vous remercie. Bonjour à tous. Je m'appelle Julien et je suis à la CIMADE depuis 5 ans. Je m'y occupe le plus souvent de demandes de titres de séjour liées à des raisons médicales. Et c'est de deux situations que je voulais témoigner aujourd'hui. En vous parlant d'abord de monsieur et madame K, qui sont venus en France avec leur bébé parce qu'ils souffraient d'une grave malformation. C'était il y a quelques années déjà. Le bébé a été accueilli à l'hôpital. Monsieur et madame K ont eu des autorisations provisoires de séjour à renouveler tous les 3 mois, puis tous les 6 mois. À chaque fois que le délai de renouvellement était trop long, monsieur K devait s'arrêter de travailler, alors ils ont commencé des démarches pour obtenir un titre de séjour permanent. Et puis l'enfant est mort. Et donc, ils ont abandonné leur démarche. Le deuxième enfant de M. et Mme K est né atteint de la même malformation. M. et Mme K ont à nouveau obtenu des autorisations provisoires de séjour à renouveler tous les 3 mois, puis tous les 6 mois, et ont recommencé des démarches pour obtenir un titre de séjour permanent. C'est à ce moment-là que moi, je les ai rencontrés. Et à ce moment-là, M. et Mme K avaient eu 28 titres provisoires à eux deux. Un troisième enfant est né en bonne santé, le deuxième enfant a survécu et à 4 ans, on a enfin pu libérer sa gorge du tuyau par lequel il était nourri depuis sa naissance. Et M. K m'a raconté que c'était bizarre d'apprendre à un enfant de 4 ans à mettre un aliment dans sa bouche, à essayer de vocaliser. M. et Mme K ont obtenu un titre d'un an, mais ils ont déménagé, le courrier s'est perdu, ils ont perdu leur titre de séjour et moi je les ai perdus de vue. Monsieur et Madame K étaient des Algériens très religieux et apparemment très loin de moi et de ma vie. Ils sont les premières personnes que j'ai accompagnées à la CIMADE. Mais je voudrais vous parler d'une autre personne que j'ai rencontrée plus récemment. Il y a 3 semaines, une dame s'est présentée boulevard des Batignolles à notre accueil hebdomadaire. Une femme élégante, visiblement aisée, une femme qui a l'habitude qu'on l'écoute quand elle parle et ça se voit. Elle est française. Elle est née à Levallois. Moi, je suis née à Versailles. Elle a mon âge, c'est-à-dire l'âge où on commence à s'inquiéter davantage pour ses parents que pour ses enfants. Elle était accompagnée, ce jour-là, d'une toute petite dame âgée et très maigre et voûtée. C'est sa mère. Sa mère est camerounaise et elle était retournée au Cameroun quand elle avait pris sa retraite. Sa mère est tombée malade, sa fille l'a fait venir, et vite. Elle l'a emmenée à l'hôpital pour faire des examens. Le médecin qui l'a examinée l'a trouvée tellement affaiblie qu'il l'a hospitalisée immédiatement. Bien sûr, il faudra qu'elle paye pour cette hospitalisation, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est venue. Elle est venue parce qu'elle veut que je lui explique comment régulariser la situation administrative de sa mère. Dans sa question, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Elle est française, sa mère a un cancer, elle doit s'occuper d'elle. C'est son devoir, mais aussi c'est son droit. Sa mère doit avoir le droit d'être là. Donc moi, je lui expliquais que non. Que pour ça, il aurait fallu demander un visa avant. Et pour avoir ce visa, ça prend, en gros, en général, un an. Un an, c'est long quand on a un cancer. Et donc, je lui expliquais que sa mère allait rester un bon moment sans papier. Alors la dame m'a regardé, elle m'a dit « Mais clandestine ?» Alors je lui ai dit « Oui ». Et pour la première fois depuis longtemps, visiblement, cette femme française, née à Levallois, était renvoyée à sa condition de française imparfaite. De fille d'étranger, quoi. Et honnêtement, je ne sais pas si elle était plutôt en colère ou plutôt triste. Voilà ce que je voulais vous raconter. Ces récits concernent des gens qui veulent simplement vivre en famille et qui font ce qu'il faut pour leurs enfants ou pour leurs parents, comme nous. Je vous remercie.
Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière de confession.
Éternel notre Dieu, nous avons besoin de ton souffle. Quand nous croisons sur nos chemins des affamés de tendresse et d'amitié, qu'ils mettent notre esprit au grand large du partage. Quand nous croisons sur nos chemins des frères et des sœurs à consoler, qu'ils fassent battre notre cœur en compassion. Quand nous croisons sur nos chemins des étrangers, qu'ils nous disposent à l'hospitalité. Quand nous croisons sur nos chemins les sanglots du monde, que ton souffle nous délivre de nos propres intérêts. Nous avons besoin de ton souffle qui nous donne la force et l'élan d'offrir pain, justice et espérance à ceux qui croisent nos chemins. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. L'Éternel a vu le peuple esclave en Égypte, le paralysé sur sa civière et même Zaché perché dans son arbre. Il nous voit prisonniers de bien des peurs et esclaves de bien des habitudes. Il a conduit le peuple à travers la mer Rouge.
Il a fait se lever le paralysé et il a rendu Zachée aimant et sympathique. En nous aussi, son esprit monte. Pour nous aussi, son Christ éclaire nos existences. L'Éternel nous conduit, nous aussi, vers une vie nouvelle. Amen. Et nous chanterons au cantique 254, « Gloire à ton nom, ô Dieu de paix ». Prenez place. Avant d'écouter Henri Masson, le président de la CIMAD, qui va lire le texte qu'il a choisi et porter la prédication pour ce jour, nous nous rassemblons dans la prière. Éternel, parfois ton appel a du mal à percer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous vivons dans tant de bruit et d'inquiétude. Nous n'entendons pas toujours ta parole de paix, de vie, de liberté, parole qui vient encore à travers ce vieux livre de la Bible. Parole cachée au cœur du monde et au cœur de nous-mêmes. Que notre esprit s'ouvre à ton esprit qui fait souffler un vent libérateur et trace des chemins d'aventure et d'espérance sur lesquels Jésus le Christ a marché et où il nous invite à le suivre. Amen.
Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 15, les versets 21 à 28, Jésus a rencontré les pharisiens, s'est expliqué avec eux, et le texte nous dit, Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier « Compassion de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours !» Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. »« C'est vrai, Seigneur, » dit-elle. « D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, grande est ta foi !» qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et dès ce moment même, sa fille fut guérie. La Cimade, vous l'avez entendu tout à l'heure dans la bouche de Dominique Hernandez, et cela est inscrit dans le préambule de nos statuts, est une forme du service que les Églises veulent rendre selon l'esprit de l'Évangile. C'est dire à la fois l'évidence et en même temps l'importance pour nous, bénévoles de ce mouvement, du témoignage que nous portons ici, dans ce temple, aujourd'hui, comme nous essayons de le faire dans d'autres paroisses protestantes. Que le conseil presbytéral du foyer de l'âme et votre pasteur, notre pasteur, Dominique Hernandez, soit très chaleureusement remercié de cette invitation. Comme elle nous l'a dit tout à l'heure, elle nous l'a rappelé, la Cimade est un vieux mouvement. Et peu des premiers organisateurs imaginaient que 80 ans après sa création, elle existerait toujours. D'ailleurs, le déroulé de l'acronyme qui lui sert de nom est à mon avis un signe, comité intermouvement auprès des évacués, qui sait aujourd'hui ce qu'étaient ces évacués. C'était une magnifique dénomination technocratique avant l'heure, liée aux évacuations avant la Seconde Guerre mondiale des personnes habitant entre la frontière franco-allemande et la ligne Maginot. Et personne depuis n'a proposé de changer ces mots. Je devrais dire d'ailleurs, personne n'a osé. Cet acronyme est devenu courant, la CIMAD. Mais vous aurez remarqué, le comité a changé de genre et l'on parle non plus d'un CIMAD, mais de la CIMAD. Elle a accompagné l'histoire de notre pays depuis donc plus de 80 ans, comme celle d'autres pays particulièrement secoués, en Afrique ou en Amérique latine par exemple, en défendant souvent des positions difficiles à entendre, à exprimer, et des positions courageuses. Elle a montré du doigt quelques-unes des indignités de ce monde. Et c'est en s'inspirant de cette histoire qu'elle continue modestement aujourd'hui. Je cite les statuts, comme l'a fait tout à l'heure Dominique, à manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées, et plus particulièrement les personnes réfugiées et migrantes. Le texte de l'évangile de Matthieu que nous venons de lire est le récit d'une rencontre inattendue entre Jésus et une étrangère. Ce récit est manifestement important puisqu'il est repris dans l'évangile de Marc sans grande différence. On ne sait pas bien ce que Jésus allait faire à Tyr et à Sidon. Il s'agit de villes de la Phénicie, c'est-à-dire de l'actuel Sud-Liban. Mais c'est un territoire étranger et païen. Marc précise d'ailleurs que Jésus y allait incognito. Peut-être souhaitait-il simplement se reposer de la foule. Comme je le disais moi-même avant la lecture, les deux évangiles nous rapportent en effet, avant cette rencontre, que Jésus a un échange assez musclé avec les pharisiens au sujet du respect des traditions et des rites alimentaires dans la religion juive en particulier. Et voilà qu'une femme vient demander à Jésus de sauver sa fille malade. On peut imaginer qu'elle s'est confiée à de nombreux thérapeutes ou guérisseurs et qui n'ont pas su protéger l'enfant du démon qui la tourmente. Elle a dû entendre parler de ce Jésus qui faisait des miracles et elle provoque cette rencontre qui est peut-être pour elle, comme pour sa fille, celle de la dernière chance. Et elle y met la détermination, l'obstination de tout parent confronté à la maladie de son enfant et qui cherche sans relâche la voie de la guérison. Elle se heurte au refus de Jésus, de l'écouter. Elle se heurte à la condescendance des disciples qui ne savent d'ailleurs pas comment s'en débarrasser et demande à Jésus de régler le problème. Renvoie-la ! Jésus, pour cela, assène une vérité, sa vérité, à cette femme douloureuse qui dérange. Je ne suis pas venu pour toi. Cesse de nous embêter et passe ton chemin. Mais coup de théâtre, il va quand même l'écouter. Il est convaincu et il répond favorablement à sa demande. Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. Cette histoire a inspiré de très nombreux peintres, en particulier au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et dans la plupart des cas, ils ont eu pas mal de difficultés à représenter la totalité de l'histoire, ces deux temps opposés qui ne peuvent se comprendre l'un sans l'autre. Ils n'en retiendront souvent que la conclusion de l'histoire, la guérison de la jeune cananéenne, le miracle. Et cela donne lieu, comme on peut le voir dans la chapelle du Val-de-Grâce ou dans quelques musées parisiens ou ailleurs, cela donne lieu à une débauche de tissus somptueux, de couleurs plus éclatantes les unes que les autres, avec au centre un Jésus majestueusement campé et tendant la guérison à une mère infiniment reconnaissante. L'affaire, vous l'avez compris, est bien plus complexe. Deux siècles auparavant, un miniaturiste se saisissait de cette même histoire pour l'illustrer dans une page complète des très riches heures du duc de Berry. Et là, dans une forme de fidélité au texte des évangiles, il choisit de représenter la totalité de l'histoire en séparant sa feuille en deux parties. Dans les deux tiers supérieurs, une femme suppliante est agenouillée devant Jésus qui lui tourne le dos. Femme que les disciples regardent avec hauteur. À droite de la femme, on voit une maison dans laquelle une jeune fille est allongée sur un lit. Et dans le dernier tiers, au bas de la feuille, tout a changé. Jésus est tourné vers la femme, penché avec attention vers elle, l'écoutant et lui annonçant sans doute la guérison de sa fille. Les disciples, eux aussi, adoptent une attitude plus avenante. Quant à la place et dans le positionnement de la feuille, le miniaturiste a donc attaché plus d'importance à la première période de la rencontre qu'au miracle lui-même. Cette représentation, vous l'aurez compris, me fascine plus que les autres. Le simple trait horizontal séparant les deux miniatures illustre le changement radical d'attitude de Jésus. En vérité, pour être tout à fait précis, ce trait n'est pas tout à fait horizontal et il inclut un passage du psaume 25, mais qui était l'introïte de la messe qui était célébrée pour ce jour et donc n'a pas de lien avec l'illustration dont je parle. Cette volte-face est donc au cœur de notre histoire et elle nous saisit, elle nous interroge. Comment est-elle possible ? Comment cette femme, une étrangère, une païenne, a-t-elle réussi à convaincre Jésus ? Ce n'est évidemment pas la première fois qu'il rencontre une personne étrangère, mais se noue avec cette femme une relation extraordinaire. Au moment où Jésus se retourne vers elle pour la chasser à la demande des disciples, il n'a évidemment pas l'intention de l'écouter. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais cette mère est tenace. Bien que tout joue contre elle, sa détermination, nourrie de la certitude que Jésus peut guérir sa fille, va lui donner la force d'affronter Jésus dans un magnifique dialogue autour de quelques miettes de pain. Jésus cherche à la dissuader en la culpabilisant, l'accusant, elle, l'étrangère, de vouloir profiter du pain réservé aux enfants d'Israël. Est-ce pour l'éprouver ? Peut-être, peut-être pas. Nous sommes loin, en tout cas, des images à la fois pompeuses, sucrées, doucereuses d'un Jésus distribuant ici des bénédictions et faisant là quelques miracles. Non, l'homme incomparable, comme l'appellera Renan, dans une célèbre conférence au Collège de France, qui amènera d'ailleurs Renan à abandonner sa chaire. L'homme incomparable tourne ici le dos à une mère blessée et malheureuse sans un instant l'écouter. Quand il lui parle, c'est pour la renvoyer à ses origines d'étrangère, de païenne, et l'écarter de la table. Et la cananéenne, au lieu d'abandonner ou de répondre avec agressivité, décide avec à propos de rappeler calmement à Jésus une évidence de la vie quotidienne, à savoir que des miettes de pain tombent toujours de la table des maîtres quand ce ne sont pas les petits-enfants eux-mêmes qui donnent un morceau de pain aux petits chiens qui traînent sous la table. « Oui, dit cette femme, j'ai compris que tu n'es pas venu pour les petits chiens comme moi, mais quelles que soient nos différences, je te rappelle que je fais partie de la même humanité que les brebis d'Israël. Je me contenterai volontiers des miettes qui tombe de la table, mais je revendique le droit de m'en saisir. » Et Jésus de répondre, « Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dans l'instant et à distance. La volte-face de Jésus est fondamentale, plus peut-être que le miracle lui-même, pourtant si important pour cette mère et sa fille. Rien ne rapprochait Jésus et la cananéenne, tous les séparaient. Le premier contact fut rude, mais l'intelligence et la détermination de cette femme, entrant dans le raisonnement de Jésus et le retournant à son profit, retournant son argumentation, va provoquer le total changement d'attitude. Jésus est mis en difficulté devant ses disciples, et qui plus est, par une étrangère. Il l'accepte, il le reconnaît. Sa mission ne s'arrêtera donc pas aux seules brebis perdues de la maison d'Israël. Toute l'humanité est concernée. Faite de la même chair, du même sang, traversée par les mêmes émotions, l'humanité tout entière arrive unie et s'invite au repas pour partager le même pain. Personne ne prend la part d'un autre. Il y en aura assez pour tous. Quelles que soient nos différences, réelles ou supposées, l'humanité est un tout et on ne peut en exclure une partie au nom d'on ne sait quelles règles et quels principes. Ce que nous dit aussi ce texte, c'est que si, comme Jésus, nous tournons de temps à autre le dos à l'étranger que nous croisons, nous ne le reconnaissons pas immédiatement comme un frère, ce n'est pas si grave. Tant que nous acceptons de revenir sur nos pas, d'écouter cet étranger et d'accepter de se laisser bouleverser et transformer par cette rencontre. Ce que nous dit peut-être aussi ce texte, c'est de cesser de montrer du doigt tous ceux qui aujourd'hui refusent d'accueillir l'étranger comme un des nôtres, mais bien au contraire d'aller vers eux. D'aller vers eux pour les écouter, pour leur parler et leur montrer avec la calme assurance de la cananéenne que la table est assez grande et le pain en quantité pour y accueillir quelques réprouvés de la terre qui frappent à la porte. C'est là le rôle de la Simade, que d'aller, plus encore qu'aujourd'hui, d'aller vers tous ceux qui ne partagent pas ses aspirations et même les combattent. C'est son rôle que de rappeler, d'affirmer, avec d'autres bien sûr et à sa mesure, l'égalité de dignité entre nous tous, l'identité de droit entre nous tous, et cela, qui que nous soyons, d'où que nous venions, quel que soit notre parcours. C'est aussi de lutter sans relâche contre toutes les formes de racisme et de xénophobie. Vous pourrez lire en particulier sur le site du Monde ce week-end une tribune que nous avons signée, Fanélie Carré-Comte, notre secrétaire générale, et moi-même, pour rappeler aux futurs élus de la nation pour lesquels nous sommes invités à voter aujourd'hui, pour leur rappeler quelques-unes de nos demandes. Une réelle protection de tous les enfants étrangers, la régularisation large, durable, des personnes aujourd'hui sans titre de séjour, alors qu'elles séjournent parfois sur notre territoire depuis plus de 10 ans. Un accueil digne à nos frontières, qu'il s'agisse des frontières dans les Alpes ou dans les Pyrénées, ou plus encore sur le littoral de la Manche. Mission ardue qui génère parfois chez les équipiers, comme nous nous appelons, un découragement face à l'ampleur de la tâche, face à l'incompréhension d'une partie du monde politique et des pouvoirs publics, mais aussi parfois une radicalité dans notre manière de nous présenter, de nous exprimer, radicalité qui nous est un peu reprochée et qui peut choquer, mais qui n'est que l'expression de l'urgence que nous ressentons de voir apparaître enfin un monde plus solidaire, plus humain, plus fraternel. N'oublions pas la calme détermination de la Cananéenne face à Jésus. N'oublions pas le revirement essentiel de Jésus face à elle. Acceptons cette rencontre comme une espérance et vivons-la comme la promesse d'un changement. Et cette promesse, elle ne s'adresse pas seulement aux équipiers de la CIMAD et aux personnes que nous accompagnons. Elle s'adresse à nous toutes et à nous tous. Dans une société fragilisée, où la confrontation est plus fréquente que le dialogue attentif et posé, notre responsabilité de citoyens engagés comme nous le sommes ici, toutes et tous, c'est de créer, de renforcer ces liens si nécessaires entre nous pour bien vivre ensemble, de renforcer, de créer ces fraternités heureuses, ouvertes, généreuses, et non pas comme certaines, fermées et qui excluent. Oui, avec la CIMAD, nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. Avec la Cananéenne, soyons dans l'espérance. Femme, ta foi t'a sauvée, qu'il t'arrive comme tu le veux. Amen.
Thank you.
Frédéric vient de nous faire entendre son interprétation d'un air irlandais, d'un auteur inconnu, mais dont le titre est « Droit de l'homme ». Et nous écouterons maintenant Micheline, notre amie Micheline Vaucher-Lemilon, qui va elle aussi porter son témoignage d'équipière de la CIMAD.
Je suis née à l'étranger, de parents eux-mêmes nés hors de France. Et toute ma vie s'est construite dans le mouvement, sous des cieux divers. Et pourtant, je ne me suis jamais entendue traiter de migrante, parce que moi, j'ai des papiers. Mais depuis que je suis équipière à la CIMAD, j'ai rencontré d'autres vies que la mienne, des vies de sans-papiers, des vies de papiers. Celle, par exemple, de cette famille de Géorgiens qui se sont vus refuser l'asile, mais qui ont quand même décidé de rester en France avec leurs deux enfants qui, au moment de leur arrivée en 2012, avaient respectivement 2 ans et quelques semaines. Alors, les enfants ont été évidemment scolarisés en France, ont fait une scolarité tout à fait normale, même si l'aîné a eu un grave accident qui l'a amené à subir 14 opérations avant qu'il ne puisse retrouver l'usage de ses membres. Mais aujourd'hui, c'est un jeune collégien plutôt brillant. Alors pendant ce temps-là, les parents ne se sont pas beaucoup occupés de se régulariser, pour employer ce terme. Parce que quand on est étranger, qu'on maîtrise mal la langue, qu'on ne connaît pas les arcanes du système, qu'on est vraiment complètement arc-bouté pour sauver un de ses enfants, les papiers, ce n'est pas une chose à laquelle on pense, surtout quand on se heurte à une administration qui multiplie les difficultés et que quand on se croit arrivé au but, tout d'un coup, on vous dit que vous n'avez pas rempli la bonne case ou qu'il vous manque un papier. Mais le problème, c'est que, à l'occasion d'un banal contrôle de police, un excès de vitesse sur la route, ça va être OQTF, IRTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français, interdiction de revenir sur le territoire français, c'est-à-dire une forme de bannissement. Alors, et les enfants dans tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ah, c'est pas le problème de l'administration. Débrouillez-vous, on ne veut plus vous voir. Celle aussi de ce jeune Marocain arrivé en France avec la détermination de trouver du travail et de gagner de l'argent pour pouvoir sauver son père gravement malade. Mais en France, la France ne délivre pas de visa pour les jeunes hommes seuls, surtout quand ils sont maghrébins. Alors, il est passé par la République tchèque. Et une fois arrivé en France, pour travailler, que faire? Eh bien, il a acheté une fausse carte d'identité à Barbès. Ah, bien sûr, ça n'est pas bien. Mais comment faire? Puisque on ne veut pas l'accueillir. Mais comme il est tout à fait déterminé, il a trouvé du travail très facilement. Et le travail d'agent d'escale à Orly, badgé, en passant des contrôles de police 10 fois par jour. Personne n'y a vu que du feu. Jusqu'au jour où quelqu'un a regardé ça d'un peu plus près et a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, il a dit, c'est une fausse carte. Et la police d'Orly, qu'il connaissait très bien, a dit, ah ben non, c'est pas possible, lui, non, tout va bien. Et a refusé de le menotter, mais il a été présenté devant un juge. C'est les policiers qui ont pris sa défense pour qu'il ne fasse pas l'objet d'une condamnation. Il est donc reparti libre et il a à nouveau cherché du travail parce qu'il en a absolument besoin. Et cette fois, c'est la Poste qui l'a engagé. Un organisme semi-public, je vous rappelle. Et comme il est vraiment doué de facteur, il est très vite devenu chargé de clientèle. Le meilleur, de telle sorte que la Poste lui a proposé un contrat à durée indéterminée. Et là, il est parti en courant, tétanisé d'angoisse, en se disant, mais
cette supercherie va éclater, et qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Et ça n'est pas ce que je voulais. Je voulais travailler honnêtement, faire ma vie normalement. Donc il est arrivé à la CIMADE. Mais qu'est-ce que je peux lui répondre? Vous n'entrez dans aucune case. Et en plus, vous avez acheté une fausse carte. Donc si vous faites une demande, c'est OQTF-IRTF. Et c'est désespérant. Un garçon plein de talent, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Vivre dans la clandestinité, la peur au ventre, sans perspective d'avenir, sans pouvoir construire sa vie alors qu'il n'a pas 30 ans. Alors, vous allez me dire, il y a des situations plus dramatiques. Mais voilà, c'est ça. C'est ça notre politique d'immigration. C'est ça notre politique vis-à-vis des étrangers. Un système qui, dans la plus totale légalité, broie des vies. Complètement. Ces histoires, elles vous démontrent l'absurdité du système. Car finalement, toute notre politique d'immigration qui a pour objectif de repousser les étrangers sans prendre en compte leur situation personnelle, elle se fait au nom de la sécurité. Et je viens de vous raconter quelque chose qui démontre que la sécurité, c'est comme une grosse passoire. Alors, je suis heureuse d'avoir pu devenir équipière à la CIMADE, parce que la CIMADE, elle est là vraiment pour accompagner, conseiller, aider tous ceux qui viennent vers elle, mais surtout pour poser un regard d'empathie sur tous ces visages qui sont souvent, ces êtres humains qui sont souvent perdus, désemparés, désorientés, et pour leur dire qu'ils ont leur place parmi nous. C'est la raison pour laquelle je serai équipière à la CIMADE aussi longtemps que je pourrai pour apporter avec modestie mais avec conviction ma pierre à la construction de ce devoir d'hospitalité dont personnellement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, je souhaiterais qu'il soit reconnu comme un droit et qu'il soit ajouté à la Déclaration universelle des droits de l'homme pour que l'étranger ne soit plus un étranger, mais devienne véritablement un hôte.
Je vous invite à vous lever pour entendre la confession de foi à travers ce texte choisi pour aujourd'hui. Je crois en Dieu, l'Éternel qui est, qui était et qui vient. Je crois notre histoire habitée, soulevée, fécondée par le Dieu vivant. Dans sa parole, heureuse nouvelle, dans les signes de l'eau et du pain, dans les cris du pauvre et de l'affamé, dans les gestes du prisonnier et du rejeté, il m'attend. Il me parle, mystérieux visiteur dont le souffle de vie me fouette le visage. Avec mes frères et sœurs, je sais qu'il habite notre aujourd'hui. Je crois avec tous les humains d'hier qui déchiffrèrent sa trace dans l'histoire. Peuple libéré de la servitude et tensé par les prophètes. Peuple chanteur de psaumes et sage de proverbes. Avec les foules palestiniennes, avec les apôtres témoins de sa voix humaine, j'entre dans ce grand cortège qui suit le Nazaréen. Paul de Tarse, François d'Assise, Martin Luther, Jean 23, Martin Luther King et tous les autres qui n'ont pas cru en vain. Je crois, dans le bruissement du monde, entendre les coups qu'il frappe à la porte, discerner les pas silencieux de celui qui vient. C'est pourquoi, au chevet des malades et des agonisants, je prie. Avec tous les opprimés et les torturés, je crie. Avec tous les passionnés, je cherche. Et avec les lutteurs, je milite, car il vient. Celui-là qui rompt tous les destins et ouvre les chemins, qui désarme toutes les résignations et suscite les responsabilités, et dont le projet fait pâlir tous les programmes. J'attends le vivant, dont la résurrection a nom espérance. Je crois en Dieu, celui d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Amen. Prenez place. Voici le moment des annonces. Et d'abord, un temps pour remercier Henri Masson et les équipiers de la CIMAD qui sont venus aujourd'hui pour partager leur expérience, leurs paroles, leurs interpellations. Ils resteront un petit peu à la sorte après le culte si vous souhaitez les interroger, poser des questions, partager avec eux. Et puis, vous trouverez également sur la table au fond du temple toute une série de documents à votre disposition, des petits livrets fort bien faits qui peuvent vous renseigner et puis vous servir à renseigner d'autres aussi sur les questions de migration, les questions de papier, beaucoup d'autres thèmes. Il y a également des petits carnets sur lesquels nous pouvons écrire, qui sont offerts, des badges, enfin voilà, n'hésitez pas à vous servir. Henri, est-ce que vous voudriez ajouter d'autres choses par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure? Venez au micro.
Peut-être vous indiquer que si vous souhaitez avoir plus d'informations encore, il y a un site, lacimadattaché.org, et que là vous trouvez tous les moyens de nous rejoindre en venant dans des permanences si ça vous intéresse. Il y en a plusieurs en région parisienne bien évidemment, ou en nous faisant un don, parce que les dons sont aussi bienvenus et qu'on ne vit pas sans ces dons. Donc n'hésitez pas à consulter ce site lacimad.org.
Aujourd'hui dimanche, collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Et je vous rappelle que les produits particulièrement demandés en ce moment sont sur les feuilles affichées dans l'entrée du temple et que cette collecte a lieu tous les dimanches. Dans la semaine qui vient, un certain nombre d'activités. D'abord, mercredi 15 à 19h30, ce sera la dernière rencontre du groupe biblique du mercredi soir, qui terminera donc son parcours sur le thème du corps humain. Et nous nous attacherons cette fois-ci à comprendre cette parole de Jésus de Nazareth partageant son dernier repas avec ses disciples et qui dit « Ceci est mon corps ». Voilà. Donc mercredi à 19h30 en présence ou en Zoom pour ceux qui ne peuvent pas venir. Il faut me demander le Zoom si vous le souhaitez. Jeudi 16, de 12h30 à 13h30, la pause spirituelle dans le temple, qui permet de se retrouver aussi autour d'un texte biblique, mais aussi d'un peu de musique, de silence, et puis de partage autour du texte biblique et des prières. Et jeudi 16 au soir à 19h30, ce sera la rencontre, la dernière aussi avant l'été, du groupe de jeunes adultes du foyer de l'âme. Nous nous retrouverons dans la salle du deuxième étage, peut-être même sur la terrasse si le temps le permet, pour partager un dernier repas et partager aussi sur le thème du repos, du sabbat, dans le courant de ces vies si agitées, si remplies. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie, le sabbat ou le repos? Ensuite, samedi 18, à 17h, ce sera la sortie des jeunes du caté, c'est-à-dire les dernières années, dont deux ont fait leur confirmation lors du culte de Pentecôte, et trois autres la feront au culte de rentrée. Donc nous irons au jardin des Tuileries voir les sculptures à thème biblique qui se trouvent dans ce jardin. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, les enfants de l'école biblique sont eux au parc floral, où ils vont s'intéresser aux plantes comestibles, puisqu'eux ont travaillé sur le thème des repas pendant toute l'année. Et puis dimanche 19, à 10h30, un culte qui sera animé en grande partie par notre ami Frédéric Rivoal, puisque ce sera un culte musical sur le thème de la joie, particulièrement sur les 12 premiers versets du 15e chapitre de l'Évangile de Jean. Donc voilà ce culte très musical, très chantant, et avec évidemment un déroulement tout à fait différent de des cultes habituels. Donc ce sera le 19, dimanche prochain. Je voudrais aussi signaler, je l'ai perdu, mais vous avez sur la table au fond du temple des petits flyers pour le concert qui sera organisé ici le 21 juin, le jour de la fête de la musique, un concert de chant et orgue organisé par notre amie Nicole Gigliotti. Et puis aussi, il y a un concert vous trouverez les affiches aussi sur la table au fond, au profit des femmes d'Afghanistan, organisé par l'association Afran, qui avait déjà organisé un tel concert au mois de janvier dernier, et dont vous avez pu lire dans le bulletin les objectifs et les actions en faveur des femmes d'Afghanistan. Donc voilà, beaucoup de rendez-vous musicaux en ce mois de juin, et puis les dernières rencontres des groupes habituels de la paroisse. Est-ce qu'il y a d'autres annonces, Dominique? Ça doit être pour l'entraide et l'accueil des migrants.
Exactement. Mais cette fois-ci, ce n'est pas particulier à notre paroisse. Je voulais relayer un message que peut-être certains d'entre vous ont reçu ce matin de Sophie de Croûte, qui, à la Fédération des entraides protestantes, est responsable des couloirs humanitaires. Alors, sont des migrants un peu privilégiés, effectivement. Mais la FEP organise... la FEP organise une grande fête pour tous ces migrants, nationale, sur une péniche à Paris. Alors, tous font l'aller-retour dans la journée, sauf les gens qui viennent du sud-ouest, parce qu'ils ne peuvent pas, les trains sont trop longs. Donc, on recherche des gens pour héberger 13 familles. Dans toutes les paroisses, je pense que le message va circuler. 13 familles pour la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juin. Voilà. Si, parlez-en autour de vous. Je vais mettre l'annonce sur le site, peut-être, pour que ça diffuse au-delà des gens qui sont présents. Et merci d'en parler dans vos réseaux respectifs. Merci.
Et comme dans ces familles vont de 1 à 6 personnes, voilà, si vous avez des disponibilités pour des familles vraiment nombreuses, eh bien merci de le préciser aussi. Alors voici le moment de l'offrande, et que cette offrande soit libre et joyeuse. Et pendant cette offrande, nous chanterons au cantique numéro 284, « Ta volonté, Seigneur mon Dieu ». Nous nous levons pour chanter, bien sûr.
Thank you.
prenez place. Et c'est Micheline maintenant qui viendra nous parler de son engagement et des rencontres qu'elle fait à la CIMAD.
Bonjour à vous tous. Je suis contente de me retrouver ici, surtout que je viens de rencontrer Henri, avec qui j'ai partagé il y a plus de 6 ans, j'allais dire, les mêmes bancs à la permanence de Belleville, où je suis bénévole déjà depuis plus de 12 ans, où j'accueille une fois par semaine, tous les soirs, les lundis, de 18h à 22h, j'accueille 5 à 6 migrants. Et aujourd'hui, il y a plus de 40 ou 50 migrants qui viennent tous les soirs sur cet horaire du lundi soir dans cette permanence. Quoi vous dire ? Moi, je travaille surtout sur ce qu'on appelle la régularisation des personnes sans papier, des sans-papiers, c'est-à-dire des gens qui sont là, des personnes qui se trouvent sur notre territoire, qui travaillent. Certains travaillent plus de 10 ans dans des métiers très difficiles. C'est dans le bâtiment, c'est des éboueurs, c'est des personnes qui travaillent aussi dans la restauration, qui travaillent aussi même dans le secteur de la santé, et qui malheureusement, au bout d'un certain nombre d'années, sont toujours sans papier et sans sécurité, sans dignité. Et je cherche à travers une petite fenêtre qu'on appelle la circulaire Valls de les régulariser. Alors pour les régulariser, je ne vous cache pas que c'est un parcours long, dur, parsemé d'obstacles à la fois administratifs qui exigent tout un tas de paperasse. Et quand ils viennent me voir, ils viennent avec des valises. Des vraies valises, pleines de papiers. C'est un petit peu leur vie, parce que la régularisation suppose qu'ils apportent des preuves de leur présence en France depuis 5 ans, depuis 7 ans, depuis 10 ans. Et donc, il va falloir vérifier tous ces papiers, cette vie qui peuvent être à la fois des papiers de santé, parce qu'ils ont ce qu'on appelle une assurance maladie universelle pour certains. Ça peut être aussi des tickets de métro, ça peut être des factures qu'ils ont dû payer, ça peut être aussi des certificats de scolarité de leurs enfants, et ça peut être aussi ce qu'on appelle des vrais bulletins de paie. C'est très technique ce que je vous dis, mais c'est important de le savoir, parce qu'ils travaillent, certains, et certains ont des vraies fiches de paie alors qu'ils sont sans papier, qu'ils n'ont pas de carte de séjour. Et le problème, c'est de convaincre leurs employeurs, qui parfois savent ou ne savent pas qu'ils travaillent sans papier, d'accepter de régulariser leur présence en France. Et ça, c'est le nœud du problème, parce qu'il y a tout un dialogue qui se passe entre nous, eux et leurs employeurs, pour les convaincre de les déclarer pour qu'ils puissent avoir une carte de séjour et une vie relativement digne en France. Et au-delà de cet objectif, qui est un objectif de régularisation administrative, c'est toute une relation qui se loue entre nous, entre moi et ces migrants qui viennent, leur famille parfois, leur si c'est la femme qui arrive, c'est leur époux, si c'est la femme toute seule avec les enfants. Et c'est au bout d'un parcours qui est relativement long, de 2 ou 3 ans, qu'on arrive à décrocher cette pépite qu'est cette carte de séjour. Et je ne vous cache pas qu'il y a des situations qui sont rocambolesques, qui sont très dures, parce que parfois j'ai des jeunes mineurs, j'allais dire, qui arrivent en France, qui ont 15, 16 ans, et toute la problématique est de prouver qu'ils ont cet âge de minorité pour qu'ils puissent obtenir une protection au titre de leur minorité. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Et puis, il y a ceux aussi qui arrivent et qui ont laissé une partie de leur famille. C'est-à-dire, eux sont là, c'est des pères de famille, ou parfois c'est des mères de famille qui ont laissé leur épouse ou même leurs enfants. Et la problématique, et une fois qu'ils sont là, qu'ils travaillent, c'est de faire en sorte de le réunir, ce qu'on appelle dans notre jargon la réunification familiale. Et là aussi, c'est tout un parcours complexe, administratif, qu'il faut passer par là pour essayer de faire venir leurs enfants ou leur épouse. Et je termine un petit peu avec deux cas vécus. L'un très, très, très récent. J'ai rencontré une Guinéenne, une mère guinéenne, et ce qu'a dit Henri aujourd'hui sur cette femme canadienne, c'est un petit peu, m'a rappelé cette mère guinéenne qui est venue me voir et qui au début, j'allais lui dire que non, c'est pas possible, parce qu'elle est arrivée en France il y a plus de 5 ans avec ses deux filles, et elle a demandé l'asile, et elle a pu obtenir l'asile. Parce que l'argumentation qui était très plausible et sur laquelle nous nous sommes fondés, c'était le danger, la menace que couraient ces petites filles de l'excision sexuelle. Et donc il fallait à tout prix prouver que ces petites filles pouvaient courir ce danger-là. Mais une fois qu'elle a obtenu l'asile avec ses deux petites filles, elle est venue me dire qu'elle a laissé sur place en Guinée un petit garçon à l'âge de 5 ans qui n'est pas venu avec elle. Et donc là, aujourd'hui, ce garçon a 10 ans et elle voulait me dire qu'il faut qu'elle en pleure, en quelque sorte, qu'elle était en lien avec lui, mais d'une manière intermittente, et qu'il fallait ramener ce garçon qui a l'âge de 10 ans aujourd'hui en France pour qu'il retrouve sa maman et ses deux petites sœurs. Et là, j'ai commencé avec elle tout un travail, à la fois administratif, pour prouver la filiation, pour se rapprocher des services d'état civil de l'état de Guinée et pour ramener ce garçon. Et j'espère qu'on va finir, je vais finir par aboutir à faire venir ce jeune garçon qui a aujourd'hui 10 ans. Mais je voudrais terminer par une belle histoire quand même, parce que c'est des histoires de vie que je vois depuis 12 ans. Et je garde en mémoire un jeune mineur arrivé en France un soir du mois d'avril. Et c'est resté dans ma mémoire en 2016. Un jeune Malien qui est arrivé un soir à 10h du soir dans la permanence de Belleville, sans rien, presque, j'allais dire, sans argent, sans valise. Et il y avait une urgence de le loger, de le protéger. Et puis ce jeune homme qui est arrivé en France à l'âge de 15 ans et demi, que j'ai accompagné pendant jusqu'à il y a un an, aujourd'hui a eu un certificat un diplôme de paysagiste, de jardinier paysagiste. Et aujourd'hui, depuis plus d'un an, il est employé à la mairie de Montreuil, il est paysagiste. Et je garde toujours un lien avec lui parce que il vient me. J'ai un petit balcon et puis il est mon paysagiste sur mon petit balcon. Et c'est une très très belle histoire que je voudrais clôturer ça. Voilà, merci pour votre écoute.
Nous nous rassemblons maintenant dans la prière d'intercession avec une actualisation de la prière du Notre Père, qui vient de Julia Esquivel, dont certains connaissent peut-être le nom, une poétesse et théologienne et militante guatémaltèque des droits de l'homme, qui est décédée en 2019. Et c'est donc cette prière, cette réécriture du Notre Père, qui portera notre prière d'intercession aujourd'hui. Notre Père qui est dans la vie de tous les humains qui cherchent la justice parce qu'ils aiment leurs frères et sœurs et te servent. Ton nom est sanctifié par tous ceux qui défendent la vie des pauvres et des humbles, qui ont foi et espérance en toi, qui luttent pour le respect de leur dignité. Que ton règne vienne. Ton règne qui est liberté et amour, fraternité et justice, droit et vérité. Que ta volonté soit faite, toi qui es liberté pour les prisonniers, apaisement des affligés, force pour les torturés, libération et vie pour ceux qui souffrent de violence. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, le pain de l'égalité et de la joie, le pain de ta parole et de l'éducation, le pain de la terre et du logement, le pain de la nourriture et de l'assistance médicale. Pardonne-nous de ne pas savoir partager le pain que tu nous as donné. Pardonne notre manque de foi et de courage quand, par peur, nous gardons le silence. Ne nous conduis pas dans la tentation qui nous fait nous conformer aux puissances de ce monde et qui nous fait croire que nous sommes impuissants à changer quoi que ce soit. Mais délivre-nous du mal qui, du fond de nous-mêmes, nous invite à garder notre vie pour nous-mêmes, quand toi, tu nous invites à la donner. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, et à personne d'autre qui voudrait l'usurper. La puissance, et non à une organisation ou un parti, et la gloire, car tu es le seul Dieu et le seul Père pour toujours. Amen. Veuillez vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané de la feuille de culte avant la bénédiction. Et pour repartir avec l'exhortation dans le livre du prophète Michée au chapitre 6, le verset 8. On t'a enseigné ce qui est bien, ce que l'Éternel exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes le droit des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Amen. Amis, frères et sœurs, de là où nous sommes jusque là où nous irons, le Christ nous accompagne. De ce que nous sommes à ce que nous deviendrons par l'Esprit, le Christ nous éclaire. Des généralités que nous disons au signe de la grâce que nous posons, le Christ nous encourage. Et ainsi, Dieu nous bénit. Amen.